Vous connaissez assurément notre prochain invité. Il a été un 10e choix total au repêchage de 93 par les Nordiques de Québec. On l'a vu évidemment avec les Nordiques, par la suite avec l'Avalanche et bien sûr, entre autres, avec le Canadien de Montréal. Il se nomme Jocelyn Thibault. Salut Jocelyn.
Bon matin.
Ça va bien?
Ça va très très bien, toi?
Ben oui, super de t'avoir. Peut-être tu devrais appeler les gens de Google, parce que quand on tape ton nom, ça marque directeur général de Hockey Québec.
Ah, ça fait pas, ça fait longtemps que je me suis pas googlé, comme on dit, mais merci pour l'information.
Ouais, j'ai été surpris d'apprendre ça ce matin en faisant des recherches. Mais Jocelyn, blague à part, t'es encore impliqué dans le hockey mineur, là, malgré tout, là.
Ben oui, oui, non, dans le sens que plus vraiment au niveau vraiment des opérationnels, tu sais, je coach plus, je suis pas impliqué dans des structures à gauche puis à droite. Moi, je suis évidemment là. Mon entreprise est gestionnaire d'un complexe sportif ici à Sherbrooke. Donc, évidemment qu'on travaille quand même étroitement avec les acteurs là, du hockey d'ici dans la région des Cantons de l'Est. Mais dans les faits, là, je suis plus impliqué. Puis avec le Phoenix aussi. Ouais. Je suis actionnaire, vice-président hockey. Mais j'ai plus de rôle dans le hockey mineur comme tel.
OK. J'ai parlé d'Hockey Québec. Ce départ-là s'est fait un peu de manière précipitée. On s'attendait pas à ça. T'en as parlé déjà un petit peu, mais est-ce que c'est un épisode un petit peu qui a été un peu surprenant pour toi? Parce que je pense que tu t'attendais probablement à rester plus longtemps à la tête de l'organisme, j'imagine.
Oui, j'étais à peu près 2 ans et demi à la tête, en fait, comme DG d'Hockey Québec. Écoute, j'ai apprécié mon passage là. On a avancé des choses, mais à un moment donné, je me suis rendu compte que le DG d'Hockey Québec a vraiment un peu ou pas de pouvoir ou de contrôle sur le hockey au Québec. Et à un moment donné, tu te rends compte que ton quotidien ressemble pas mal à éteindre des feux qui peuvent subvenir là qu'à peu près quotidiennement au Québec. Donc à un moment donné, je me suis dit que le peu d'impact que j'avais le niveau de situation problématique que je pouvais gérer en une journée ne faisait pas de sens pour moi. Alors c'est un peu pour ça que j'ai quitté ce rôle-là et puis j'ai décidé de retourner un petit peu à mes anciennes amours puis de contribuer au développement du hockey différemment.
Est-ce que tu crois en ça, là? On parlait cette semaine avec Stéphane Auger qu'une part d'un plan d'action qui s'en vient, puis on veut changer un petit peu là la culture du hockey mineur au Québec. Est-ce que tu crois que c'est possible selon ta propre expérience?
Oui, tout à fait, c'est possible, mais il faut qu'Hockey Québec reprenne le contrôle du développement du hockey au Québec. Le hockey a été, je dirais, le contrôle de l'organisation puis des décisions hockey a été très décentralisé au fil des années. Et puis Hockey Québec doit reprendre le contrôle de plein de choses, doit reprendre le volant. On a déjà entendu ça en politique il y a un certain nombre d'années, doit reprendre le volant du développement du hockey au Québec. Donc, il y a des changements de structure qui doivent se faire, des changements de gouvernance qui doivent être effectués. Il y en a un petit peu qui a été fait, mais il y a d'autres changements en matière de gouvernance et de structures organisationnelles qui doivent être opérées pour... j'aime beaucoup Stéphane. Je pense que j'aime beaucoup les gens qui sont en place. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place afin qu'Hockey Québec reprenne justement le contrôle et soit capable justement de mettre en place des plans d'action qui vont rendre notre fédération puis notre développement encore plus professionnel, plus optimal.
Et Jocelyn, je me souviens, je t'ai entendu parler de ça déjà, mais le problème que tu avais identifié et beaucoup de gens le vivent, les gens qui sont impliqués dans le milieu du hockey mineur, c'est que tout le monde parle un langage différent. Là, tu t'en vas, d'un bord, il y a une fédération qui dit ça, l'autre qui dit ça, l'autre qui dit ça. Et là, tu te retrouves avec un paquet de monde autour d'une table qui ne parle pas la même langue. Et c'est un peu ça le problème présentement?
Ben oui. En fait, il y a certainement que l'alignement peut faire défaut dans certains cas. Dans certains cas, ça va bien. Il y a certains endroits au Québec où il y a une volonté de s'aligner avec la fédération. Moi, comme je te mentionnais tantôt, un des éléments qui m'a grandement affecté puis dérangé dans un poste de gestionnaire où tu es imputable de beaucoup de choses. Souvent, il y avait des problématiques qui subvenaient là, à travers le Québec et puis la fédération avait très, très peu de pouvoir, bien que quand il arrive quelque chose, quelque part, c'est toujours le DG de la fédération qui se fait interpeller.
Oui.
Et souvent, il me faisait dire de mêler mes affaires, de pas reste dans tes affaires, mais t'as pas des notes, t'as pas à savoir ce qui se passe ici. Fait que tu sais, à un moment donné, comme DG, tu as une imputabilité, tu as une grande responsabilité envers le gouvernement du Québec, envers les parents, envers les joueurs, les entraîneurs. Puis quand t'as pas les leviers qu'il faut pour intervenir ou pour aligner les choses, quelque part, c'est un peu ça qui m'a usé puis qui m'a insécurisé, je vais dire comme ça, comme gestionnaire. Et puis à un moment donné, ça devient un peu risqué, un peu trop risqué ou un peu trop. Pas nécessairement très très plaisant et très sécurisant pour un gestionnaire de ne pas avoir les deux mains sur le volant, comme on dit.
Bon, et puis là, tu te fais dire de te mêler de tes affaires, mais en même temps, t'es à la tête de ça. S'il y a quelqu'un qui devrait avoir le droit de d'aller voir un petit peu comment ça fonctionne à gauche, à droite, c'est bien le boss de Hockey Québec, que ça fait aucun sens, ça.
Ben exactement. Il y a eu des situations très médiatisées. Et puis, à quelque part, on essayait d'aller chercher l'information, puis on refusait de nous donner l'information à présent à plusieurs moments. C'est arrivé, en fait, ça arrivait presque toujours où on essayait d'aller chercher l'information, puis malheureusement, cette information-là, on refusait de nous la donner. Alors, tu sais, c'est pour moi, quand tu es gestionnaire imputable d'une organisation XYZ, ben c'est une façon de fonctionner qui peut pas être comme ça, là.
Ouais. Et en bout de ligne, est-ce que c'est un genre de découragement que tu as vécu, dirais-tu, ce mot-là?
Ben, découragement, un peu, mais beaucoup de frustration. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'impliquent dans le hockey au Québec pour les bonnes raisons. Sincèrement, là, il y a beaucoup de gens, puis merci mon Dieu, parce que sinon, il n'y en aura pas de hockey, puis il n'y en aura pas de sport amateur, puis ces choses-là. Je pense qu'au moment où on est rendu, il faut amener notre... Je ne parle pas nécessairement juste de hockey, mais il faut amener... on parle beaucoup de professionnalisation dans le milieu du sport. C'est amorcé, et c'est une bonne chose. Il faut professionnaliser nos milieux, faut professionnaliser nos organisations de plus en plus. Tu sais, faut que ça fonctionne droit, faut que ça fonctionne, que ce soit au niveau financier, que ce soit au niveau sportif. Faut que les organisations, puis il y a un mouvement qui est amorcé, alors c'est super positif de professionnalisation. Et quelque part, je pense qu'il y a un mix de professionnalisation puis de bénévolat, je pense qui est à instaurer ou à peaufiner au niveau du développement du sport. Ça avance, mais il y a encore du travail à faire, ça c'est sûr.
Ouais, puis tu as parlé de l'aspect financier, Jocelyn. On avait Stéphane Fizet ici à l'émission là. Et Stéphane nous disait qu'à l'époque quand il était jeune, il allait à l'aréna du quartier, il faisait la file avec les autres gardiens, ramassait le stock de l'autre goaler de l'année d'avant, mettait un petit peu de Fabrice là-dessus, puis il partait avec le stock, puis c'était son stock pour de l'année, là. T'sais, mais on avait une structure où on offrait l'équipement, puis tu le sais, c'est quoi, là, l'équipement de gardien de but, ça coûte quand même assez cher. Mais est-ce qu'on peut revenir à un modèle similaire à ça, Jocelyn, où ça pourrait coûter moins cher aux familles, là?
Oui, absolument, puis sincèrement, ça reste un défi constant parce que on le voit, tu sais, je veux dire, ici on n'est pas dans une bulle plus qu'ailleurs, dans le sens que les coûts, le coût de la vie augmente partout, les coûts des équipements sportifs augmentent partout sur la terre, là, tu sais, on n'est pas à seul endroit où ce que ça arrive là.
Oui.
Alors c'est sûr et certain, puis on voit là que de plus en plus c'est difficile d'arriver pour plein de gens. Alors, tu sais, les parents, c'est sûr, dans la grande majorité des cas, ils veulent pas priver leurs enfants de faire du sport. Tu sais, l'inscription coûte de plus en plus cher, mais tu sais, quelque part, c'est malheureusement un peu normal. Tu sais, les coûts de glace augmentent. Je veux dire, tout augmente là. Les gens qui justement qui travaillent, il y a des bénévoles, mais aussi il y a des gens qui sont rémunérés dans certaines structures, on les écoute, les équipements augmentent. Fait que c'est pas évident d'avancer puis de maintenir l'accessibilité à son meilleur niveau. Cependant, faut le faire. Il y a des façons de faire. Puis on le voit, puis je salue le travers des gens partout au travers de Québec qui trouvent des façons justement soit de prêter de l'équipement ou d'échanger d'équipement ou tenter vraiment là, beaucoup d'efforts. Je le vois partout là où il y a beaucoup de gens qui travaillent dans ce sens-là. Fait que bref, faut continuer à faire ça parce que c'est de plus en plus coûteux. Puis c'est difficile de ralentir l'inflation, on va se le dire, mais cependant, il faut juste en être conscient puis continuer à penser à des façons de rendre le sport le plus accessible possible. Ça, c'est super important.
Jocelyn, avant d'aller à la pause, Jocelyn, rapidement, je sais que tu fais partie des coprésidents du comité de candidature de Mirabel, région des Laurentides, et ça, c'est en vue de l'obtention des Jeux du Canada à l'hiver 2031. C'est encore loin, mais on se prépare déjà. Parle-nous un petit peu de cette aventure.
Oui, ben écoute, pour ceux qui l'ignorent, je suis natif des Laurentides.
Oui, je savais, oui.
Et puis, j'ai passé mes premières années de ma vie dans les Laurentides. J'ai grandi toute ma jeunesse, pas mal. On habitait à Laval, mais on passait nos étés dans les Laurentides. Bref, j'ai aussi demeuré dans les Laurentides à Blainville pendant plusieurs années lors de mon début de carrière professionnelle. Et puis, on m'a approché lorsque la ville de Mirabel et les environs, justement, ont démontré l'intérêt à obtenir les Jeux du Canada d'hiver 2031. Et puis, pour moi, j'ai participé en 2013 au conseil d'administration des Jeux du Canada, ici à Sherbrooke. Et puis, pour moi, j'ai accepté immédiatement parce que, tu sais, sincèrement, j'ai vu ce que c'est les Jeux du Canada. Non seulement je l'ai vu comme administrateur, je les ai vécus comme membre d'un conseil d'administration, mais je les ai aussi vécus comme entraîneur puis comme papa d'athlète. Donc c'est vraiment des Jeux incroyables. Alors puis la région de Mirabel et les environs, c'est écoute pour ceux qui connaissent l'endroit là, c'est vraiment en croissance, un endroit magnifique, beaucoup de très dynamique. Alors pour moi c'est d'un, je me fais plaisir. Ouais. J'aime participer à ce genre de projet là. Puis aussi, j'apprends dans ça. Je pense que j'essaie aussi de peaufiner mes connaissances en matière d'administration d'événements sportifs. Donc effectivement, la région devrait déposer sa candidature pour les Jeux d'hiver 31. Puis on espère justement déposer la meilleure candidature possible pour les avoir.
Oui, c'est encore loin, mais on en parle déjà parce qu'il faut le faire et c'est important pour la région. Alors, on regarde ça de très, très près. Jocelyn, notre question à l'émission aujourd'hui, c'est une transaction qui vous a marqué. Et je pense qu'il y en a une qui t'a peut-être marqué un petit peu, légèrement. Ça remonte à 95. On va t'en parler un peu. Tu dois te douter c'est quoi. Hein? T'étais quand même bien impliqué.
J'en ai entendu parler.
Oui, hein, t'en entends. J'en doute pas. Alors, on va prendre une toute petite pause et on va revenir avec toi tout de suite après. Reste bien là. On poursuit notre discussion avec Jocelyn Thibault, ex-gardien de la Ligue nationale de hockey, entre autres choses. Et Jocelyn, avant la pause, je te parlais d'une date 6 décembre 95. Ça a marqué plein de monde, et clairement, évidemment, ça t'a marqué toi aussi. Qu'est-ce que tu te souviens de ce 6 décembre 95?
Je me souviens que j'ai pas dormi beaucoup. On jouait la veille à Denver. Après le match, on est allé souper, là, puis on demeurait à ce moment-là en banlieue de Denver, à peu près à un bon 25 minutes du centre-ville. En revenant justement à la maison vers, je sais pas, était minuit et demi à peu près, j'avais un message, parce qu'on fonctionnait pas vraiment avec des cellulaires à l'époque, là, fait que j'avais un message sur notre répondeur à la maison de rappeler au bureau à toute heure de la nuit. Alors, puis à ce moment-là, ça se parlait. La transaction, bref, j'ai rappelé, puis on est remonté justement à l'aréna, et puis c'est à ce moment-là que j'ai appris ça. Puis nous, on avait un vol nolisé, je pense à 7h le lendemain matin pour s'en venir à Montréal. Alors, tu sais, dans le fond, les joueurs de l'Avalanche et les joueurs du Canadien qui faisaient le sens inverse, on a pris le même avion, là, fait que c'était un peu ça qui s'était passé cette journée-là. Puis évidemment, là, en arrivant à la conférence de presse, puis c'était vraiment le choc là, pour tout le monde, finalement.
Oui, et là, de mémoire, Jocelyn, quand ça arrive, t'as 21 ans, c'est ça?
J'avais 20 ans parce que j'ai eu 21 en janvier, donc j'avais presque 21, mais j'avais 20 de mémoire.
T'allais avoir 21, on s'entend, là, ouais, c'est très, très jeune.
Ouais.
Et là, tu sais, tu passes de Denver. Tu sais, Denver, faut le dire, c'est oui, bon marché de hockey, mais c'est bon, il y a les Broncos, tu sais, il y a c'est une ville beaucoup de football en premier. Là, tu débarques ici, tu es un Québécois évidemment, tu joues avec les Nordiques. Mais là, tu arrives ici et là, c'est le cirque et là, en plus de ça, le gars qui part de l'autre bord, c'est peut-être le plus grand gardien de but de l'histoire du hockey, ou en tout cas, certainement un des plus grands. Comment est-ce que tu as pu composer avec ça?
Ben moi, j'étais content dans le sens que je voulais pas que, tu sais, je ne souhaitais pas quitter l'Avalanche. J'avais pas, écoute, ça allait bien là-bas. C'était ma troisième année avec l'équipe. De mémoire, là, à moins que je m'abuse, là, on était premier dans la division Ouest à ce moment-là. On avait une bonne équipe, une bonne saison. Tu sais, on se plaisait vraiment beaucoup. On a eu le choc de quitter Québec, mais je veux dire, les choses allaient bien d'un point de vue hockey là-bas. Alors moi, de revenir quand même à Montréal, sans que je souhaitais quitter l'Avalanche à ce moment-là, tu sais, c'était un rêve de jeunesse pour moi de jouer pour le Canadien. Là, j'étais très heureux d'avoir la chance de jouer pour Montréal. Puis, tu sais, Patrick, c'était mon idole, dans le sens que moi, tu sais, Patrick, quand il a gagné sa première Coupe cette année en 86, j'avais 11 ans. Alors, pour moi, tu sais, ça m'a marqué, là, puis évidemment que toutes mes années, tu sais, d'hockey mineur, là, puis oui, Bantam, Midget, tu sais, c'était les bonnes années de Patrick, là. Alors, tu sais, je veux dire, c'était un idole pour moi, donc j'étais très heureux. Ben, c'était très, très, très spécial pour moi de faire partie de cette transaction-là.
Est-ce que, quand ça s'est arrivé, tu t'es dit, OK, je dois prendre la place de Patrick?
Pas vraiment. Non. Sincèrement, non. Puis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivaient de l'anxiété par rapport à moi, autour de moi, mais non, pas vraiment. Puis, sincèrement, j'ai jamais... tu sais, je me suis toujours... J'ai toujours souhaité être moi, puis souhaité poursuivre mon développement, puis bien performer, évidemment, ça c'est sûr, parce que t'es dans une ligue où ce que tu sais, c'est une ligue de performance, c'est pas une ligue de développement, la LNH. Alors oui, même si t'es jeune, il y a une question de développement, mais pas tant, dans le sens il faut que tu performes, puis si tu performes pas, ben on va t'envoyer te développer ailleurs. Là, alors mais ça allait bien, puis non, j'ai jamais senti ça. J'ai jamais senti qu'il fallait que je sois Patrick. J'ai toujours eu cette approche comme quoi que ben regarde, je veux être moi, puis je veux devenir le gardien que je pense être capable de devenir, mais sans plus.
Ouais, tu t'es pas mis cette pression-là toi-même.
Non, pas du tout.
On a tenté de te la mettre, par contre.
Oui, ben c'est sûr. Puis tu sais, les gens. En fait, c'est. J'ai souvent à la blague, la pire affaire qui peut m'être arrivée, c'est que Patrick gagne la Coupe cette année, sa première année là-bas. Là, fait que, parce que quand il a quitté Patrick, tu sais, les gens. Il y a beaucoup de gens qui. Ben, à tort, là, ben, beaucoup de gens qui pensaient qu'il était fini, puis que. Ses meilleures années étaient derrière lui, puis tout ça, puis finalement, c'est pas ça qui s'est avéré. Puis Patrick est arrivé là-bas, puis bon, évidemment qu'une bonne équipe, ces choses-là, puis ils ont gagné la Coupe cette année, à sa première année. Là, c'est sûr que rapidement, les gens sont mis à comparer, puis à taper du pied un peu, alors, mais non, c'est ça, c'est même que j'ai vu ça.
Toi, c'est ça, toi, rapidement, tu t'es pas dit, je dois être ce gars-là, je vais être moi-même à la place, puis ça va être ça.
Non. Ouais. Non, pas du tout. J'ai jamais senti ça, j'ai jamais eu cette approche-là, puis c'est pas ça que j'ai voulu faire non plus.
Et tu l'as dit, t'es parti des Nordiques, évidemment, les Nordiques avec la flèche là, qui pointait vers le haut, vraiment les bons jeunes joueurs. Les Nordiques déménagent du côté de Denver. Et là, l'équipe, évidemment, on sait, là, il y a eu la Coupe Stanley en 96, il y en a une autre quelques années plus tard. Mais là, t'arrives à Montréal au moment où ça va un peu moins bien. Il y a des questionnements, l'organisation est un petit peu en émoi, il y a un gros changement de coach qui a eu lieu, évidemment, qui a mené au départ de Patrick Roy, bien sûr. T'arrives pas au meilleur des moments, là, chez le Canadien de Montréal. Comment est-ce que t'as navigué à travers tout ça?
Ben, écoute, encore une fois, tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, c'est sûr que, tu sais, bon, il y avait eu un changement d'entraîneur, un changement de DG, là, un changement, tu sais, on envoie le gardien numéro un, comme tu as dit tantôt, probablement un des meilleurs de l'histoire, puis le capitaine, il faut se souvenir que Mike Keane aussi avait quitté dans la transition, fait tu sais, c'était quand même plusieurs chocs, là, tu sais, en l'espace de quelques mois, mais l'équipe était quand même bonne. Tu sais, quand je suis arrivé à Montréal, on avait une bonne équipe. Je pense que ma première année là, de mémoire, on avait comme 8 marqueurs de 20 buts. Tu sais, on avait une bonne équipe, une bonne défensive. Puis par la suite, évidemment, que là, il y a eu des mouvements, puis c'était un peu plus difficile, mais c'est ça. Mais ça, je pense que le départ, tu sais, de M. Savard, de M. Demers, puis tu sais, le départ de Patrick puis Mike Keane, tout ça ensemble, ça, oui, c'est sûr que ça, je pense que ça a déstabilisé un petit peu l'organisation puis plein de choses. Puis effectivement, il s'est amorcé par des changements, mais c'est un choc, je pense, pour l'organisation à ce moment-là.
Ouais. Hey, t'as pas été si longtemps. Je calcule, c'est quoi, c'est 4 ans avec le Canadien de Montréal?
Ouais, 4 ans, ouais. Il était 4 ans.
4 ans. Après ça, t'as été un peu plus longtemps avec les Blackhawks de Chicago.
Ouais, j'étais cette saison, en fait, 8 ans, parce que dans le fond, l'année du lockout de 2004, on était là, mais on jouait pas, mais j'étais à Chicago pendant 7-8 ans, c'est ça, exactement. Puis j'ai fait, Pittsburgh, Buffalo par la suite, 2 ans plus 1 an, mais c'est à Chicago où on était le plus longtemps.
Ouais. Et t'arrives à Pittsburgh? En même temps que Sidney Crosby?
Oui, on est arrivé tout à fait, on est arrivé en même temps. Puis oui. Sincèrement, à Pittsburgh, j'ai eu en fait, je te dirais 2 belles années. La première était quand même difficile parce que c'était le retour du lockout, c'était l'arrivée de Sidney. C'était très, tu sais, le retour de Mario aussi. Mario avait décidé de rechausser les patins. Puis il est arrivé plusieurs nouveaux joueurs à l'époque. Moi, j'ai eu... j'ai été réopéré. Là, j'avais été opéré à une hanche à Chicago, puis là, mon autre hanche avait cédé là, en début de saison. Alors, j'ai joué peut-être quelques mois, mais j'ai fallu que je sois opéré. Fait que la première année n'a pas été super le fun à Pittsburgh, mais la deuxième année était vraiment le fun. On avait... c'était la première année complète de Marc-André Fleury avec moi là-bas. C'était la deuxième année justement de plusieurs jeunes de l'organisation. Peut-être tu parlais de Sidney, ouais. Colby Armstrong, Whitney, en tout cas Max Talbot. Il y avait mon année 1 à Pittsburgh, il y avait plusieurs jeunes de l'organisation qui avaient été montés à Pittsburgh. Puis d'ailleurs, l'arrivée de Michel Therrien comme entraîneur à Pittsburgh. Mais la deuxième année à Pittsburgh était vraiment, vraiment plaisante. On avait une belle gang de jeunes et de vétérans. Puis j'ai apprécié vraiment la deuxième année là-bas.
Et là, tu t'en vas terminer ta carrière du côté des Sabres de Buffalo. Mais là, tu tombes dans une drôle de situation. Le numéro 1 joue 76 games. Ça n'a pas de bon sens.
Ouais.
Malheureusement, ouais. T'as passé beaucoup de temps sur le tabouret, là, malheureusement. Là.
Ouais. Ben oui, puis tu sais, ce qui est arrivé, on n'a pas eu un bon début de saison. L'équipe n'a pas bien sorti la gate, comme on dit, en bon québécois.
Ouais.
Et puis, tu sais, ça, c'est dans le hockey d'aujourd'hui. C'est ça qui est traite. Quand tu as un mauvais début de saison, tu sais, t'es comme forcé à jouer du hockey de rattrapage un peu toute l'année. Là. Les points que tu échappes en début de saison, là, ça fait mal. Et puis à l'époque, ben, Lindy Ruff, qui était à son premier séjour comme entraîneur. Évidemment que là, tu sais, bon, il faisait goaler, puis Brian Miller était vraiment bon. Il était en, je sais pas nécessairement en début de carrière, mais il était vraiment dans le prime de sa carrière. Alors, tu sais, Ryan avait été vraiment, vraiment, le mot surutilisé est
ouais.
un peu...
on va dire surtaxé.
Surtaxé. Fait que tu sais, j'ai pas eu la chance de jouer beaucoup de matchs cette année-là, mais effectivement, j'ai usé le tabouret pas mal cette année-là.
mais sur le coup, ça, là, on trouve ça drôle, mais sur le coup, ça devait pas être si drôle que ça pour Jocelyn Thibault, ça.
Ben non, c'est parce que quand j'étais sur un contrat d'un an, et puis quand, tu sais, ma deuxième année à Pittsburgh avait été super bonne, tout ça, puis là, bon, j'ai signé un contrat d'un an après ça à Buffalo, mais là, quand tu sais que t'es sur un contrat d'un an, puis tu joues pas ou à peu près pas, tu vois ça venir, là, tu comprends que ça va pas être difficile d'avoir un contrat par la suite, donc c'est ça qui était un peu angoissant dans cette saison-là, excuse-moi, ouais. Cette année-là.
Ouais, et là, quand la saison s'est terminée, t'avais seulement pris part à 12 rencontres. Là, tu t'es dit, c'est assez, je rentre à la maison. Ou ben non, t'as tenté d'aller voir ailleurs pareil?
Ben, je suis resté à l'écoute. Je suis resté à l'écoute quand même de ce que, mais j'ai pas eu de, tu sais, j'ai eu des discussions un peu à gauche et à droite pour différents scénarios, mais à ce moment-là, tu sais, sincèrement, en 4 saisons, on avait fait 3 villes. Tu sais, j'étais parti de Chicago, de Pittsburgh à Buffalo. Et puis, tu sais, mais à ce moment-là, nos filles avaient commencé l'école primaire. Alors, tu sais, je trouvais que c'était beaucoup de mouvements là, d'école là, pour les jeunes. Puis aussi, physiquement, j'en arrachais dans le sens que, tu sais, j'avais eu 3 opérations aux hanches en 4 ans. Puis sincèrement, ça commençait à être difficile le matin. Là. J'avais, partir le moteur le matin, là, ça faisait être réchauffé pas mal longtemps.
Ouais.
Alors physiquement, je commençais vraiment à avoir la difficulté à faire mon travail. Puis dans tout ça, tu sais, j'ai compris que, tu sais, pour moi, c'était c'était pas mal la fin des émissions à ce moment-là. Puis c'est là, à ce moment-là, j'ai entrepris des projets d'affaires ici dans la région de Sherbrooke. Et puis, ben, c'est ça, puis j'ai jamais regardé en arrière.
OK. Et puis, dernière question, Jocelyn, je parlais avec Carey Price, je crois, c'était l'année passée. Et il me disait que c'est encore... Il est à la retraite, évidemment, mais il disait que ça fait mal. J'essaie de jouer à balle molle, je suis pas capable, j'ai de la misère à sortir du lit certains matins. Est-ce que toi, t'es physiquement, est-ce que tu te portes bien malgré tout? Parce que c'est pas une position facile là, pendant des années, ça.
Oui, ben puis écoute, je suis à la même place que lui dans le sens que effectivement, puis tout athlète professionnel qui a joué pendant longtemps, tu peux pas finir une carrière puis être frais comme une rose après là, ça c'est impossible. Pour moi, effectivement, tu sais la carrière a laissé des traces. Tu sais mes opérations aux hanches ont fait que bon, j'ai beaucoup de difficultés. En fait, je suis plus vraiment capable de courir maintenant. Tu sais, je fais du vélo, mais je suis plus capable de courir. Tu sais, effectivement, j'ai souvent besoin de traitement chez le chiro, chez les physios, évidemment, pour le corps va flancher quand tu fais certaines activités physiques un peu plus demandantes. C'est normal. Tu sais, faut que tu apprennes à vivre avec ça, comme à peu près tous les anciens athlètes là peuvent vivre là, comme après carrière, mais gars, c'est un peu le prix à payer pour les années que tu travailles ou que tu joues. Mais oui, effectivement, moi aussi j'ai eu des difficultés là. Tu sais, je vis une belle vie normale quand même, je peux faire beaucoup d'activités comme telle, mais il y a certaines choses que évidemment je me limite un peu.
Ouais, donc tu courras pas le Ironman demain. Non, ça arrivera pas là.
C'est quelque chose que j'aimerais faire, mais non, effectivement, ça se peut que je vais coucher en terre après quelques kilomètres.
Bon, ben parfait. Des fois c'est la meilleure option. La meilleure option, c'est de ne pas bouger puis se mettre les pieds sur le pouf. Des fois, c'est la meilleure option.
J'essaie de bouger pareil, mais de façon moins violente.
Ben Jocelyn Thibault, ça a été un plaisir de te parler ce matin. T'es de toute évidence très généreux de ton temps et on l'apprécie beaucoup. Merci.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Merci beaucoup, Jocelyn Thibault, ancien gardien de but, évidemment, que vous connaissez très bien, qui nous a donné beaucoup de son temps ce matin. Vraiment une belle et franche discussion. Nous, on va faire une petite pause et on se retrouve tout de suite après.